France Inter.
C'est la bande originale.
Mais oui.
France Inter avec Emma Beaujean,
bonjour.
Avec Julien Santini,
bonjour.
Avec Daniel Morin,
bonjour.
Tanguy Pascuro sera avec nous tout à l'heure, Oldela,
oui.
Et notre invité aujourd'hui, Katell Müller.
Bravo, ouais. Bravo
France Inter, la bande originale.
Bonjour Katell.
Leïla Kadu.
Bonjour Leïla.
Soyez la bienvenue dans la bande originale, c'est la première fois qu'on vous reçoit.
Oui, je
comment
crois.
C'est possible? Comment c'est possible?
Mais moi, je vous écoute tous les jours.
Ah, alors, vous connaissez bien toute la bande autour de la table. Voilà, vous n'allez pas être trop perturbés. On va parler.
C'est très gentil de votre part. Déçu. Je veux dire en plein carême.
Déçu parce qu'elle vous voit. C'est ça que tu veux dire.
Non, ah oui, c'est comme ça
non.
Dans la vraie vie.
Mais non. On va parler de Gigi, votre nouvel album publié chez Dargo BD, adapté d'une nouvelle de Colette, ce que vous signez. Vous ne signez pas ça toute seule, bien entendu. Avec Claire Bouillac, vous avez réalisé le scénario à quatre mains et quant au dessin, vous vous êtes réparti un peu le travail, c'est ça ?
C'est ça, c'est le travail que nous faisons avec Claire Bouillac, c'est raconter des histoires de femmes, en fait c'est reprendre des grandes œuvres littéraires mm-hmm. féminines. Nous avons travaillé par exemple sur Madame de Lafayette avec La Princesse de Clèves,
oui.
George Sand, Indiana, et maintenant c'est Gigi de Colette. Donc nous écrivons à quatre mains et nous nous répartissons le travail. Elle dessine finalement le roman qui
Gigi.
Est adapté, et oui. Moi je fais plutôt la partie biographique qui entoure cela, c'est-à-dire un prologue et un épilogue qui montre la vie de l'autrice à ce moment-là et qui est justement étrangement en rapport
oui.
avec son héroïne fictive.
Une caisse de résonance et ça met l'œuvre en perspective, c'est ce qu'on aime bien faire quand on étudie
voilà.
une œuvre plutôt que de l'étudier comme ça toute seule. On parle de Colette, donc aujourd'hui dans la bande originale, une auteure. Eh bien justement, tour de table, dans votre scolarité, dans vos lectures, est-ce qu'il y a une auteure qui se distingue ? Emma.
Oui, évidemment.
Sans doute plus, plusieurs, de nombreuses.
Non, mais c'est juste que déjà, oui. Je pensais au fait que j'ai envie de rendre une dédicace à ma chienne qui s'appelle Gigi.
Ah, c'est vrai.
Merci, je peux pas ne pas en parler. On peut pas faire comme si elle existait pas. Non, voilà, c'est très important pour moi.
C'est vrai.
Attendez, non, mais en vrai, il y a plein d'autres.
Alors, attends,
je prends la parole.
Oui, Julien.
Bon, je vais hausser un peu le niveau. C'est vrai qu'Emma est encore jeune.
J'ai pas eu mon bac, en fait, c'est pour ça, je le passe la semaine prochaine.
Je l'ai pas eu non plus.
Il y en a un, ça se voit.
J'ai été élevé dans un système extrêmement patriarcal, tu le sais.
Il s'appelle un chenille.
Ça va être très dur.
J'en supplie.
Et donc, c'est vrai, mais c'est vrai. Et donc, quand j'étais à l'école.
On touche pas à un bouquin de femme.
Non, je disais en permanence, oui. S'il vous plaît, je n'entends parler que de Musset, que de Montesquieu, que de Molière. Donnez-nous, s'il vous plaît, des œuvres féminines. Et j'étais en guerre. Et ils étaient.
C'est hyper long, non ?
J'y crois pas.
Je suis en difficulté parce que là, aucun nom ne me vient.
Et, oui,
et donc j'essaye de créer que le corps ne vient pas de moi, mais c'est vrai ce que
non,
je
mais
dis.
Forcément, c'est intéressant, ouais.
Ça peut être une auteure contemporaine si c'est pas une auteure dite classique qu'on aurait travaillé à l'école, mais c'est marrant que tout d'un coup il n'y a pas de nom d'auteur qui vient comme
Fantaise
ça pour toi.
Olympe de Gouges.
Oui, mais est-ce que tu as lu Olympe de Gouges ?
Alors, Olympe...
Le nom, oui.
Moi, je l'ai... Alors, pardon, c'est marrant, enfin, je prends ça un peu pas comme une toque, parce que
d'autant
je sais sa bienveillance.
D'autant plus que Katell Müller lui a consacré un superbe album.
Je sais très bien. Moi, Olympe de Gouges, et avec tout le respect
que j'ai pour Olympe,
que j'ai, c'est une bougie chez moi, mais qui est à son effigie. C'est une bougie que j'ai achetée.
Donc,
qui rend hommage aux femmes.
Quel auteur est-ce que tu as lu ?
Formidable.
Tu as lu.
Ah,
quel auteur tu as lu ?
George Sand,
d'accord.
Bien joué.
Ouais.
Il est bien sorti.
Ok, oui. Daniel ?
Comtesse de Ségur, 20 000 lieues sous les mers.
Non.
Et après, on se fout de moi, merde.
Ça fait réfléchir.
Donc, quoi, Cadichon pour la comtesse de Ségur ?
Cadichon.
Bah oui.
Oui,
comtesse de Ségur, c'est
Cœur,
édition,
ouais. Bien sûr.
Non, mais vous dites en auteur femme, vraiment, il n'y en a pas une qui te vient, même de contemporaine, que tu as pu découvrir tardivement, ou que tu lis aujourd'hui Non. Et Oldelaf.
Alors moi, ce sont les livres que je lis pas, mais ni homme ni femme, c'est malheureusement à mon grand âme.
Oui.
Donc j'ai envie de dire Pénélope Bagieu, voilà, pour rester dans le monde de la BD que j'ai beaucoup lu.
Ah ouais.
Qui a mis les femmes à l'honneur avec Culotté, notamment.
Voilà.
Voilà.
Donc voilà. Et ça, j'ai vraiment lu beaucoup.
Et Matt,
ouais, moi, c'est bon, c'est revenu. Ouf. Alors ce qui m'avait marqué, c'était Yasmina Reza, mais ce qui m'avait marqué, c'est que c'était la première fois qu'on devait étudier du théâtre au lycée, et c'est là que du coup j'ai commencé à en faire, et voilà, et c'est ça qui m'a m'a marqué. J'avais beaucoup aimé la pièce, voilà. Mais c'est surtout le fait que c'est la première fois que je me suis retrouvée au théâtre.
Et vous, les auteurs,
Ben oui, c'est très intéressant ce qui se passe autour de cette table, parce que c'est la réalité. Effectivement, il y a un grand vide qui en réalité n'existe, enfin, est un peu irréel, parce qu'il existe beaucoup d'auteurs femmes. Elles sont quand même, elles font partie de la moitié de l'humanité, les femmes. Donc il y en a aussi qui sont
Delphine de Vigan, qu'on a reçu.
Voilà, aujourd'hui il y en a pléthore, évidemment. Mais c'est bizarre, ça vient pas à l'esprit.
Oui.
C'est pas enregistré. Oui, et ouais. D'ailleurs, dans nos livres d'histoire, c'est pareil. On a énormément d'hommes depuis la nuit des temps. On commence par Vercingétorix dans notre grand récit national. On enchaîne avec Clovis, Charlemagne, tous les rois Louis, Napoléon.
Jeanne d'Arc, quand même.
Voilà. Alors on a Jeanne d'Arc et on a aussi quelques reines. On a
Catherine de Médicis.
Pardon.
Non, mais je disais Catherine de Médicis pour illustrer vos propos.
On a Marie-Antoinette aussi, qui s'est coupée la tête. Donc des portraits assez peu enviables de femmes. On n'a pas tellement envie de s'identifier. Voilà, Jeanne d'Arc, la pucelle, quand même,
c'est ça.
Notée,
s'est
fait brûler. Et alors, où sont nos héroïnes ? Et c'est comme ça qu'on s'était posé la question avec Joseph-Louis Boquet sur notre histoire, quand on voyait que nos enfants à l'école apprenaient ça. On a des filles, elles apprenaient ça, mais à qui s'identifier finalement ? Et pareil dans la littérature, mais où sont les femmes alors qu'on sait qu'il y en a tant que ça aujourd'hui ?
Vous, enfants, vous identifiez à quelle femme, justement ?
Moi, je connaissais que un peu la princesse, que la comtesse de Ségur, les petites filles modèles ou les malheurs de Sophie, je trouvais c'est ça infiniment plus drôle parce qu'au moins il y avait un peu de cocasserie, d'impertinence. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas... Et puis pareil même dans le cinéma. Difficile de s'identifier à des modèles féminins, des femmes, des héroïnes fantastiques. Moi, je voyais Scarlett O'Hara dans Retour n'emporte le vent. Mais c'était, il y en avait très peu. Il y avait beaucoup plus d'hommes, toujours. Donc on s'identifiait, dans la bande dessinée pareil, on s'identifiait
à des héros.
Alors heureusement, on avait la Schtroumpfette, mais enfin, c'était la seule au milieu de ces hommes.
Natacha, hôtesse de l'air,
voilà. Ça, il a fallu attendre un petit peu... Valérian, Laureline, pour commencer à avoir quelques héroïnes un peu représentatives auxquelles on puisse s'identifier. Et puis, alléluia, il y a eu Brett Échée.
Exactement.
Pour nous, qui faisons de la bande dessinée, nous les filles, enfin une femme à laquelle on pouvait s'identifier à la fois comme héroïne du réel Brett Échée, dessinatrice, et à la fois ses personnages, Agrippine.
Et ça a été un déclencheur pour vous, on en parlera dans votre bande originale, Catel Muller. Là, on s'intéresse à Colette, à cette Gigi, qui est une nouvelle, en tout cas c'est un recueil de nouvelles, et le recueil de nouvelles porte le titre de Gigi, qui est l'une de ces nouvelles, qui est une nouvelle qui a été adaptée, qui a connu un franc succès. On va continuer d'en parler. L'histoire d'une jeune femme qui est promise à un avenir qu'elle n'a pas choisi, comme beaucoup de jeunes femmes de l'époque, à savoir devenir une courtisane mondaine. Et on va explorer justement cette histoire-là en regard de la vie de Colette. Et ça va nous renseigner un peu sur la femme qu'elle était. On parlera tout à l'heure avec Frédéric Magé, qui est directeur de la maison de Colette, justement de son itinéraire, de cette femme, de celle qui était considérée par Aragon comme le plus grand écrivain. Quand même, c'est ainsi qu'il l'a désignée, et comment elle est peut-être tombée un peu, pas en désuétude, mais on la méconnaît, ou on la mésestime d'une certaine façon. Catel est notre invité dans la bande originale, et tout de suite, c'est Old Love, parce qu'Old Love, il est particulièrement fan de vous, Catel.
Mais évidemment. Je suis fan de Catel, la voiture, mais aussi l'autrice de BD Rebelle. Elle sait tout faire, même les scénarii pour un gars, une fille. D'ailleurs, elle voulait même appeler ça Leila et Nagui. Je suis fan de Catel. Si tu veux qu'on bouffe ensemble, pas de soucis, t'as Catel. Je suis passé chez Soch et j'ai un mobile Alcatel. Y'a pas toujours la 4G, mais j'aime mieux la Catel. Et vous êtes avec nous aujourd'hui pour Gigi. Grâce à vous, le roman de Colette reprend vie. Ça se passe il y a 100 ans, elle est morte aujourd'hui. J'ai vu sa tombe, c'est bien gravé, si Gigi. Ouais, je suis fan de Colette, toujours une star aujourd'hui. C'est juste qu'on dirait plus Gigi, on dirait Gigi. C'est ça le problème des surnoms qu'on choisit pas. Comme vous, Catel, on vous appelle Catelinetta.
Oh wow.
Attention. Oh Catel, on lit ta bellacci. C'est pour l'amour dans ta belle Gigi. Pour moi, c'est mieux que le roman. Ah, ah, y a les images, on comprend vraiment. Ah, ah,
Oh, oui, c'est trop bien. Elle apprend les bonnes manières, comme Daniel aurait dû faire. Heureusement que tu es là. On t'appelle Catherine et Tom. Oh, je suis fan de vous et Catel, c'est pas nul. C'est autant d'elle que dans Volleyball ou dans Libellule. Vous êtes notre invité, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec, mais qui ça, la bande originale.
Bravo,
bravo. Eh ouais. Bravo, bravo, Hold Olaf. Voilà, pour une première, Catel, vous êtes servi. Hold Olaf est sur scène peut-être ?
Eh ouais. Au Folie Bergère, au Folie Bergère le 1er avril prochain.
Et demain soir à Hondres.
Eh bien, et c'est où ça ? Dans les Landes. Absolument. Oui.
Moi, j'ai failli danser. Hein.
Ah, mais
super.
Ouais. Moi, j'ai dansé.
Aude à Catel, dans cette émission. Catel, Gigi, pourquoi s'être intéressée à cette œuvre-là de Colette ? Parce que, a priori, on pourrait se dire, pour aborder Colette, comme vous avez abordé toutes ces femmes à travers vos albums biographiques, il y avait, j'imagine, plein d'œuvres à aborder chez Colette.
Oui, c'est vrai, mais alors Colette est quand même très connue, en tout cas son nom. Après, combien de gens l'ont vraiment lu ? C'est un petit peu comme George Sand.
C'est une vraie question.
Voilà, ouais. Tout le monde connaît son nom, mais on n'a pas forcément lu l'œuvre.
Quand t'as dit George Sand,
je me suis un peu jugé.
Ouais, ouais, bah, c'est pas faux en même temps.
Bah, elle avait totalement raison.
Bah, oui. Voilà, ma Colette, c'est un peu la même chose qu'il a vraiment lu. C'est pas vraiment imposé dans les programmes scolaires. Donc,
c'est souvent une auteure à dicter. C'est
oui,
comme
parfois,
ça qu'on a voulu
voilà,
la dévaluer,
et on connaît
d'ailleurs.
Aussi bien ouais. La vie sulfureuse, souvent Colette qui a eu des amants, qui a une bisexualité, etc. Donc on connaît
Colette et les chats.
Les chats, les animaux, voilà. Donc intéressant, sur quoi se pencher en fait sur l'œuvre de Colette. Il y a plusieurs livres très intéressants, mais qui ont déjà été adaptés au cinéma ou parfois même en bande dessinée,
le
comme
blé
Claudine.
En herbe. Oui, Claudine.
Voilà, le blé en herbe connu, mais un peu compliqué aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des histoires aujourd'hui de genre, d'âge, etc., qui seraient discutables,
oui, oui.
Qui n'étaient pas à l'époque parce qu'elle était en contrepoint des hommes qui se permettaient la même chose. En revanche, Chérie, voilà.
Chérie, ou c'est quand même l'histoire quand d'une même... femme qui a une liaison avec un homme beaucoup plus jeune.
Voilà, qui en plus est son beau-fils, alors ça devient compliqué.
Voilà.
et en revanche, Gigi, qu'elle écrit à la fin de sa vie, donc c'est son dernier roman, voilà, raconte la belle époque, l'histoire d'une jeune fille, d'une émancipation d'une jeune fille à peu près en 1900. Et qui ressemble étrangement à son émancipation à elle, et qui a un succès incroyable à l'époque, qui est adapté au théâtre, au cinéma, au théâtre avec Audrey Hepburn carrément.
À Broadway, oui, c'est ça.
À Broadway, et donc il y a plusieurs versions, il y a cinématographique aussi, et finalement aujourd'hui plus personne ne connaît Gigi.
C'est vrai.
J'ai l'impression autour de nous que les gens n'avaient même pas entendu parler de Gigi.
Le film a raflé 9 Oscars.
Mais oui.
J'ai vérifié, je me suis dit c'est quand même fou de se dire que j'ai jamais entendu parler de ce film, de cette adaptation.
Exactement, on les connaît pas. Et on
avec
dit,
Maurice Chevalier voilà. Et une actrice française, c'était Leslie Caron.
Leslie Caron, voilà, ouais. Exactement. Et donc, voilà, en plus des vedettes de l'époque, ouais. Aujourd'hui, on ne sait plus du tout qui c'est. Et on s'est dit que c'était peut-être le moment de remettre en lumière cette œuvre qui était très intéressante sur beaucoup de points, et notamment, justement, ce que je disais sur l'émancipation d'une jeune fille comme elle pouvait la rêver en début de siècle, avec tous les interdits, les carcans de cette société étriquée quand même pour les femmes.
C'est ça, parce que cette Gigi, Gilberte, à 15-16 ans, c'est ça, au début de la nouvelle, élevée par sa grand-mère et sa tante d'une certaine façon, sa mère étant une artiste qui chante à l'opéra, ces deux femmes, ces trois femmes, on va dire, ont une ambition pour elle, la faire devenir une sorte de mondaine, une courtisane, tisane mondaine, elle évolue dans un milieu assez modeste finalement, et on veut la faire marier à un homme riche en fait, tout simplement, un homme riche et à peu près sérieux, c'est ça l'ambition.
Oui, et pas forcément même mariée, c'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire vivre de ses atouts.
Faire entretenir.
Faire entretenir, voilà.
C'est encore
la courtisane, parce que le mariage peut finalement être un gouffre, un échec, un abandon. Donc il faut plutôt apprendre à garder les hommes, à les exploiter par ses charmes naturels et très travaillés.
C'est ça.
Et donc elle a une éducation pour arriver à ferrer ses hommes et à les faire payer.
C'est ça. Et en fait, on assiste à travers cette bande dessinée, à l'éducation, sorte de roman d'apprentissage de cette jeune Gigi, pour qu'elle puisse séduire les hommes, il faut qu'elle soit en mesure de distinguer, par exemple, il y a une séquence très drôle, les pierres précieuses.
Et oui, bien sûr, il faut qu'elle ne se trompe pas entre le toc et les vraies pierres précieuses.
On va lui offrir.
Il faut qu'elle ait une vraie éducation, qu'elle sache que quand on va lui faire ce cadeau, il a telle valeur et pas une autre. Donc c'est une femme du monde, une femme très éduquée. Il faut, ce sont quand même des hommes riches, cultivés, puissants, qui doivent sortir. Enfin, aujourd'hui, ça existe toujours d'une certaine façon. Hein. Les commandeurs comme ça, qui se promènent avec des hommes riches et qu'ils aiment présenter comme leur maîtresse, parce qu'eux-mêmes sont mariés la plupart du temps. Mais il faut que leur maîtresse soit sortable aussi. Mmh. Donc une éducation, un polissage, non seulement une beauté, mais un savoir sur ce qui se fait, sur les bonnes manières de l'époque. Et ça raconte finalement toute une société.
Mmh. C'est vrai qu'on lui apprend à manger correctement, à déguster des mets particuliers comme les ortolans, à parler sans postillonner, même quand on est en train d'échanger à table. Donc vraiment, toute cette bienséance-là, on a l'impression qu'on la dresse comme un animal, on l'observe, on voit bien qu'il y a un moment qui est assez choquant, c'est quand on lui reconnaît qu'elle a de belles dents. Vraiment, on est vraiment en train d'estimer ces critères-là de beauté ou de compatibilité avec...
Jusqu'au marché aux bestiaux, presque.
Bah on n'est pas loin de ça, ouais. En fait. On n'est pas loin de cette considération-là.
Ouais. C'est pas le salon de l'agriculture, mais c'est le salon de la beauté, de la... Oui, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire un vrai travail de façonnage pour les femmes.
Oui.
C'est des vitrines, et finalement, Gigi ne va pas se rebeller, parce que c'est une gentille et un peu candide jeune fille hein, qui est dans cette société. Voilà, elle apprend cette bienséance, il faut répondre au code, et elle veut bien le faire jusqu'à un certain point.
C'est ça.
On lui apprend aussi à bien se tenir, à garder les genoux bien serrés, se tenir droite. Bon, elle veut bien le faire jusqu'à un certain point où elle perd complètement son naturel, et le naturel revient en galop, c'est-à-dire qu'elle a envie d'écarter les jambes à des moments, de courir, de rire plus fort, de manger salement, et sa nature prend le dessus, c'est ça qui est intéressant.
Oui.
La nature prend le dessus sur la culture.
Elle a quelque chose de presque animal quand elle se jette sur les bonbons, quand elle a envie d'être vraiment très libre comme une enfant en fait, parce que c'est une enfant. On lui demande d'apprendre à choisir un cigare pour un homme, mais à côté de ça, elle doit continuer à être la petite fille qu'elle est. Cette petite fille-là va être, non pas vendue, mais on va dire monnayée. On va voir comment les choses vont se passer. On dévoile peut-être pas toute l'intrigue de cette nouvelle de Colette. Et puis, il y a le rapport à la presse aussi, qui est très intéressant dans cette nouvelle. Ce fameux journal, le Gil Blas, tiré du Gil Blas de Santillane, j'imagine, c'est ça le...
Oui. Et puis, c'est vraiment un journal très, très connu à l'époque, où il y a tous les potins.
Les ragots, oui.
Et oui, bien sûr, donc on sait que tel homme est sorti avec telle femme, qu'il y a eu telle rupture. et notamment Gaston Lachaille, qui est un jeune homme mondialement connu.
Oui. Il est mondial.
Voilà, il est mondial, comme elle dit. Donc il est toujours dans ce journal, on sait tout ce qu'il fait, chaque fait et geste, parole. Et il se trouve que c'est un ami de la famille. Donc il vient souvent voir la grand-mère de Gigi, qui aurait eu une aventure avec son père.
Oui.
Donc c'est une histoire un peu de famille, et il vient régulièrement. Et c'est un ami pour Gigi, c'est presque plus qu'un ami. Parce qu'elle,
un tonton.
Une sorte de tonton, c'est presque familial.
Oui.
Voilà. Mais petit à petit, elle se rend compte que c'est peut-être un peu plus inversement. Enfin, ils s'attachent l'un à l'autre, en fait.
Oui.
Et dans leur aspect naturel, l'un et l'autre.
Mm-hmm.
Parce que lui se lâche aussi quand il arrive dans cette famille, et elle est tout à fait spontanée, et elle sort des codes qu'on lui a inculqués.
Et c'est ce qui va sans doute le séduire, cette fraîcheur, cette naïveté, mais qui est quand même doublée d'une véritable lucidité. C'est Gigi aux éditions d'Argo. On continue d'en parler avec vous, Katel Muller, mais vous savez, Daniel Morin, lui, n'aurait pas fait cet album comme ça. Toi, Daniel.
Oh, bravo.
Mais bien sûr que non, Lady Cadour, j'aurais pas fait de bande dessinée comme ça. Déjà, j'aurais pas fait de bande dessinée puisque je suis pas dessinateur.
Ça,
mais oh, Leïla,
oui.
Leïla,
oui.
Madame, j'ai lu tout Proust en latin.
Alors,
ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble. Alors, ok, niveau intimité, on n'est jamais allé plus loin qu'un combat en sous-vêtements dans une cuve remplie de calvas arbitrée par l'abbé Pierre. Mais bon, ça crée des liens quand même, ça rapproche. Il paraît qu'à vos heures perdues, vous êtes journaliste. Vous devriez le savoir. Moi,
oui,
mon boulot, c'est d'éveiller les consciences, d'alerter nos provinces sur ce qui se trame chez les élites parisiennes complotistes, de prouver au monde que la Terre est plate, de convaincre la justice que Tanguy n'était pas au courant quand il passait ses étés dans la villa des activités funestes de Jeffrey Epstein. C'est pas de faire le malin avec des feutres, moi! Comment ça, j'ai quasiment fait la même introduction lundi et mardi. Et alors, son what? Por que te vas? Artung meine kleine Schmetterling.
Quoi?
Si vous n'aviez pas pris une remplaçante issue des dom-toms hier et mercredi, j'aurais fait un grand chelem avec ce qu'on appelle un running introduction. Deuxième ento.
C'est pas sympa pour Morgan.
Ouais, deuxième ento, j'aurais pas fait une adaptation d'une œuvre de Colette car j'ai rien lu de Colette.
Oui.
Et ne croyez pas que je suis un culte et je ne connaisse pas mes classiques. Non. Une question de principe. Je n'accorde aucun crédit aux artistes qui n'ont comme signature qu'un prénom. Souvent, c'est un signe qui révèle de mauvaises personnes. Tenez, quelques exemples. Pris au hasard comme ça. Vianney. Dev. Tex. Oldelaf. Mickey. Et bien entendu, le Fennec du service
bien
public.
Bien sûr, je m'attendais.
Nagui l'embrouille. Eh ouais, voilà. J'ai pas fini, tire ces mots. Je n'aurais pas fait une bande dessinée dont l'héroïne s'appelle Gigi. Je vous rappelle que Gigi, ça a été dit, c'est aussi le nom de la chienne de notre chroniqueuse enfant HPI, au potentiel incontrôlable, qui est sous kétamine, Emma Bojan. Eh oui, et pourquoi, pas tant qu'on y a une bio de Lulu le Pou terroriste qui vit planqué dans ce qui reste de cheveux à ce brave Julien Santini qui est dans le déni le plus total concernant sa calvitie. Quatrième momento, j'aurais pas fait une bande dessinée avec Claire Bouillac ou n'importe qui d'autre, car j'ai un principe simple dans la vie. Je n'ai confiance en personne, les Dicadour. Non, une fois, une seule fois, j'ai fait quelque chose à deux. Ça donne les pires. Un échec complet.
Quelque chose à deux.
Mon mariage. Échec complet. Ceci étant dit, il y a bien deux, trois trucs que j'aurais fait, comme dans la BD. Par exemple, Gigi s'applique à ne pas fréquenter les gens ordinaires. Et ben ça, c'est un vrai conseil. C'est ce que je dis aux gens que je côtoie et qui, de facto, se frottent à l'extraordinaire. Pour vous dire, par moments, j'aimerais ne pas être moi pour pouvoir me rencontrer. Enfin bref, me rencontrer, sachez-le, ça peut changer des vies et des carrières. Regardez, Leïla Kaddour, il y a 12 ans. Avant que nos routes se croisent.
Attends.
On l'imaginait couvrir les conflits de la planète entière. Boring. Remporter une foultitude de prix. Méga boring. Et regardez, regardez, grâce à moi, elle en est aujourd'hui. Elle a la chance, tous les jours, d'écouter la même chanson. Celle du troubadour viking, Olaf. Séchez les larmes, Leïla, un jour je te délivrerai. Allez, oui. Attendez, on signale à l'oreillette que Catel s'est endormie, a menacé de quitter l'émission si je ne parlais pas de son actu. Ah pardon, alors, permettez-moi de souligner la chance que j'ai eue de lire Gigi. Cette bande dessinée qui prouve que l'amour peut triompher des convenances et des destins préécrits. Oh, putain, je me dégoûte. Vivement que j'apprenne à dessiner.
Bravo Daniel.
Bravo Daniel.
Justement, Gigi finit bien, contrairement, et c'est souvent souligné, au récit de Colette, elle qui s'est mariée à plusieurs reprises, trois fois je crois, à chaque fois, le dernier mariage a été le bon vraisemblablement, mais qu'est-ce qu'on retient de cette œuvre de Gigi? En la lisant, je me suis interrogée, parce que c'est trouble.
Oui, ça finit bien, et justement c'est ce qui nous a interpellés, parce qu'en principe elle aurait tout pour finir pas trop bien, plutôt mal, et donc on l'a contextualisé, et justement par rapport à la vie même de l'autrice, puisqu'il y a un grand parallèle, elle a rencontré un certain Willy quand elle était toute jeune, qui l'a fait écrire et qui l'a même exploité.
Qui signait les œuvres à sa place.
Oui. Et donc, en même temps, cet homme l'a aidé, était mondialement connu aussi à Paris, il était dans tous les réseaux, c'était une sorte d'influenceur finalement à son époque, écrivain, critique musical, et il avait des prête-plumes. Et donc, évidemment, il s'est servi de cette jeune femme pour écrire, avoir du succès avec les Claudines et le signer à sa place. Et finalement, cet homme l'aura aidé à devenir écrivaine, il faut quand même le reconnaître, et en même temps l'aura exploité. Et on a fait le parallèle avec Gigi, qui en effet met le pied dans la mondanité et dans le mariage avec cet homme, mais n'est-ce pas le début d'une autre histoire ? Ce qui était le cas pour Colette. Est-ce que c'est la fin ou c'est le début ? Voilà, c'était un peu l'angle qu'on voulait donner. Oui, ça se termine en apparence bien, mais est-ce vraiment la fin de l'histoire ?
Oui, parce qu'elle a conscience qu'elle sera malheureuse. Elle le dit. Elle a cette lucidité, cette jeune femme. Elle a 15-16 ans.
Elle analyse tout. Elle a beau être jeune, elle comprend très bien que... Elle s'engouffre peut-être dans une impasse qui a l'air merveilleuse, mais qui n'est peut-être pas aussi belle qu'on se l'imagine et que tous les contes nous le racontent en permanence. Le mariage qui va forcément amener le bonheur à la femme, alors qu'elle est contrainte finalement, et qu'elle ne peut pas être autonome, elle est dépendante de l'homme avec lequel elle se marie.
Mais c'est ça.
Début du siècle. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc elle sait très bien qu'elle va être coincée à un moment donné. Or, Colette est arrivée dans les mêmes circonstances, à s'émanciper, à s'envoler, à s'affranchir de toutes ces conventions. Et c'est pour ça qu'on a fait le parallèle. Et dans, finalement, l'épilogue, on raconte un peu l'analyse de Colette sur cette histoire en rapport et en regard à sa propre vie.
C'est ça, parce qu'elle écrit, Colette, ce texte-là, une dizaine d'années avant sa mort, je crois, elle a 70 ans à peu près quand elle écrit Gigi. Donc elle a eu le temps aussi de regarder son existence. Est-ce que c'est un texte qui a été facile à adapter? Parce qu'à chaque fois, moi, j'ai le produit fini, donc c'est fluide, je retrouve des extraits du texte, je retrouve la langue de Colette, mais
oui, ça c'est très important, vous voulez vraiment garder sa langue. Il y a beaucoup de dialogues, et c'est vraiment des dialogues qu'on retrouve dans le livre. Après, on enlève les descriptions, puisqu'un petit dessin, parfois, vaut mieux qu'un long discours. Donc on fait des décors, des costumes, il n'y a pas besoin de décrire tout cela. Il y a des scènes qu'on peut prolonger ou au contraire écourter en fonction de l'importance qu'elles ont. S'il faut mettre un peu de psychologie, on va s'arrêter un peu sur des regards, sur un moment aussi de déplacement en calèche, qui va donner un peu de poésie. Bon, ça, c'est ce que le dessin peut apporter. Mais on essaye vraiment de rester le plus fidèle possible à la langue, en enlevant vraiment ce qu'on peut enlever, ce qui ne va pas dénaturer la langue de Colette.
Quand vous relatez l'histoire de Colette, avec cet épilogue et ce prologue, vous nous mettez donc dans la vie de cette auteure, celle qui est auteure en devenir et celle qui l'est devenue, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a étonné, vous, dans son itinéraire à Colette ?
Colette, d'où elle venait, justement, de la campagne, une petite jeune fille préservée dans ce milieu, un peu comme Gigi.
Isolée,
voilà, dans une famille un peu désargentée, qui rencontre cet homme très connu, qui vient en fait dans ce village pour déposer son fils illégitime, qui la nourrisse là-bas, et il la rencontre parce qu'il connaît le père. C'est un peu un hasard tout ça, mais, mais finalement, il revient régulièrement. Elle est fascinée par ce type qui vient d'ailleurs, qui est cultivé, qui a une certaine arrogance aussi, mais une culture, un bagout, et qui l'envoûte en fait. En fait, c'est un grand séducteur qui a plusieurs femmes, mais à ce moment-là, lui aussi est très séduit par cette jeune fille candide, cultivée, intelligente, vive, qui a un gros accent bourguignon quand même, qu'elle va garder jusqu'à la fin de sa vie, donc ça c'est assez étonnant.
C'est vrai que aller sur Internet et voyez sur le site de l'INA, il y a des interviews de Colette, c'est extraordinaire.
Jusqu'au bout, cet accent à couper au couteau.
Oui, oui.
Mais elle a cette intelligence, cette vivacité qui surprend tout le monde. Et donc, il va lui proposer le mariage. Et pour elle, finalement, elle est amoureuse. En même temps, elle se rend compte qu'elle est un peu coincée. Parce que si elle reste dans son village, qu'est-ce qu'elle a comme choix, de devenir institutrice ou vieille fille? Enfin, quoi devenir? Donc, pour elle, c'est aussi l'ouverture d'un monde. Aller à Paris, où il va lui faire rencontrer un tas de monde, des intellectuels, des artistes. Elle va devenir la meilleure amie de Jean Cocteau. C'est un monde immense qui s'ouvre pour elle et en même temps une grande déception.
Oui.
Parce qu'elle va se rendre compte de ce Willy qui en fait est un usurpateur, qui est un menteur, qui la trompe et toutes ses illusions vont tomber. Donc c'est un peu là où s'arrête le roman de Gigi.
Oui.
C'est-à-dire elle se marie, mais qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que son mari va lui être fidèle? Est-ce qu'ils vont vraiment s'aimer? Et c'est là que Colette démarre en réalité sa deuxième vie qui est celle de l'émancipation. Elle va finalement divorcer, ce qui ne se fait pratiquement pas au début du siècle dans un milieu bourgeois à Paris. Et elle va vivre sa vie d'artiste. Mmh. Elle va continuer à écrire, mais elle va aussi danser, elle va faire du musical.
Elle va gagner sa vie aussi.
Elle va gagner sa vie pour être libre, indépendante. Elle va avoir une relation avec une femme. Mmh. Après, avec d'autres hommes, elle va se marier plusieurs fois jusqu'au dernier.
Qui pour l'époque est quand même scandaleux comme comportement.
Totalement scandaleux. Donc évidemment, elle remplit les journaux, elle fait les chocras des journaux du Gil Blas d'ailleurs, toujours. Et c'est ça qui est intéressant chez elle, c'est qu'elle se moque finalement du qu'en dira-t-on. Mmh. Elle vit sa vie à fond. Elle danse à moitié nue, elle fait des choses qui sont invraisemblables, que seule Joséphine Baker pouvait se permettre à ce moment-là. D'ailleurs, elles sont amies. Et c'est dans cela qu'elle est devenue un modèle d'émancipation et que les gens la connaissent.
Oui.
On la connaît moins pour son écriture, et pourtant l'écriture est à la hauteur de sa vie, avec autant d'intelligence, d'émancipation.
C'est vrai que sa vie a pris le pas sur son œuvre littéraire.
Et un peu.
Souvent, ce qui fait que souvent, Colette n'a pas été lue, en fait.
C'est ça.
Et son instinct, je crois que c'est elle qui a découvert Audrey Hepburn, enfin qui l'a vue sur un tournage, et qui s'est dit, alors qu'elle n'était pas une grande star,
tu
seras Gigi.
En vacances, dans le sud de la France, elle découvre Audrey, elle se dit, mais voilà ma Gigi.
Oui. Il y a des photos où on les voit ensemble, collées l'une à l'autre, et on se dit, c'est marrant, on a l'impression que c'est d'un autre temps, tout d'un coup, que Audrey Hepburn ne pouvait pas être contemporaine de Colette, en fait. Mais la photo est très belle et très tendre.
Oui, entre cette vieille dame et cette toute jeune fille.
Oui, 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 comme une grand-mère et sa petite-fille.
Exactement.
Vous êtes intéressée à Gigi, mais par le passé, on l'a dit, Kiki de Montparnasse, Rose Valland, Olympe de Gouges, Benoît de Groulx, Joséphine Baker, la princesse de Clèves, Alice Guy. On parlera tout à l'heure aussi de Ginette Colinca. C'est quoi le point commun avec toutes ces femmes? Quand je vous vois parler de Colette avec beaucoup d'appétit et de joie, je me dis, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup vous vous êtes arrêtée sur ces femmes-là et pas d'autres?
C'est venu d'une rencontre avec José-Louis Boquet, qui était mon amoureux, mon mari. Au début des années 2000, on s'est rencontrés et on a eu envie de raconter, lui en tant que scénariste, des histoires plutôt de femmes, pour moi qui avais envie de dessiner plutôt des histoires de femmes. Et on voulait en inventer, mais on s'est rendu compte en lisant les mémoires de Kiki, un peu par hasard, Kiki de Montparnasse, que la réalité dépassait la fiction. Ouais. Et on s'est dit, pourquoi pas raconter finalement une histoire vraie en bande dessinée et dans un nombre de pages pas conventionné comme les albums en couleur de 50 pages cartonnées.
Ouais, c'est des albums très épais. On a
comme des romans,
dedans.
Voilà, au lieu qu'il soit écrit en noir et blanc avec la typo, c'est écrit en dessin. C'est donc je crois qu'on était les premiers à faire des biographiques, comme ça je les appelle, les biographiques en bande dessinée, donc de personnages qui ont existé. Et on a commencé de façon assez empirique, parce que Kiki nous a plu comme personnage. Moi, pendant mes études d'histoire de l'art, je l'avais approchée par Man Ray, mais tout à coup on s'est dit, mais elle a une vie complètement rocambolesque. Au début des années 20 à Paris, donc il y a une centaine d'années, on venait de nombreux pays pour voir la Tour Eiffel à Paris. Et Kiki de Montparnasse, c'était bizarre. On s'est dit, mais c'était une sorte de Madonna. mais qui était cette Kiki qui a disparu complètement des radars? Et en revanche, il restait quand même une trace. C'est-à-dire, c'est cette photo de Man Ray qui est l'icône du surréalisme. On la voit de dos avec des ouïes de violoncelle. Cette photo qui a fait le tour du monde, qui est la photographie la plus vendue au monde.
D'accord.
Et on s'est dit, voilà, c'est ça le démarrage, en fait. Cette photo...
Et c'est la couverture, d'ailleurs, de votre album.
Voilà, que ma mère avait sur notre piano quand on était petit. Donc, je voyais cette photo, je ne savais pas ce que c'était. Et derrière cette photo, ce modèle, quelle était cette histoire, cette muse qui a inspiré tant de peintres, tant d'écrivains, tant de musiciens, et qui elle-même a été chanteuse et peintre aussi. Donc voilà, on a commencé par écrire ça et on a pris notre temps, on n'avait pas beaucoup d'argent, c'était vraiment un plaisir de se lancer dans cette aventure et grand succès international.
Ah oui.
Donc, deuxième ticket, et là on se dit, l'éditeur nous dit, allez-y, continuez sur cette voie. C'est là qu'on a commencé à conscientiser, y a un public qui a envie de connaître peut-être des femmes réelles qui ont marqué l'histoire, mais que l'histoire n'a pas forcément retenu en mémoire. On tombe sur Olympe de Gouges, puisque nous sommes, José-Louis et moi, des lecteurs de Benoît de Groulx, par nos mamans qui étaient des féministes, qui avaient lu Benoît de Groulx, qui avait d'ailleurs qui avait écrit Ainsi soit-elle, son pamphlet féministe, en fait, qu'elle avait dédié à Olympe de Gouges. Et on ne savait pas du tout qui était Olympe de Gouges. Elle n'était dans aucun livre d'histoire au début des années 2000.
Incroyable, oui.
Personne ne la connaissait, à part les agrégés d'histoire.
Mmh.
Et donc, on a un peu cherché à travailler sur la Révolution française. On avait énormément de documents et en même temps pas grand-chose sur elle. Donc il a fallu travailler beaucoup en amont pour arriver à reconstituer tout ce 18e siècle et ce personnage sorti finalement de la province française et qui va arriver chez les Lumières.
Que des femmes à chaque fois qui ont une vision, en fait.
Qui a une vision, qui va écrire la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, à l'instar de la Déclaration des droits de l'homme, mais qui était réservée aux hommes.
Parce qu'à
l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de vote, il faut le rappeler, au XVIIIe siècle, et qu'elle voulait dire, les femmes sont quand même la moitié de l'humanité. Elle a eu cet instinct et cette intelligence. Bon, évidemment, on lui a un peu coupé la tête pour ça, après, parce qu'on
considérait
quand même qu'elle était un peu hystérique.
Voilà, il ne faut pas plaisanter.
Et puis, voilà, succès de ce livre, on enchaîne sur la prochaine Joséphine Baker.
Alors, on ne va pas toutes les passer en revue, parce qu'on va voir ça dans votre bande original, Katelle Müller, mais c'est vrai que toutes ces femmes-là, elles ont toutes un point commun. Elles sont toutes émancipées, particulièrement en avant-garde, en fait.
Toutes en avant-garde, elles ont toutes marqué l'histoire à leur manière. Mmh. Elles ne sont pas dans les livres d'histoire. C'est ça, en fait. Elles sont françaises
aussi, leur
à la base aussi, parce qu'on s'est limité. Mais il y aurait un travail à faire dans le monde entier, évidemment. Mais on a voulu, en fait, revisiter nos livres d'histoire et y incruster des femmes très importantes qui doivent être des modèles pour les jeunes générations.
Donc, Colette, c'est le dernier né de votre collaboration à toutes les deux avec Claire Bouillac. On continue d'en parler, mais tout de suite dans la bande originale, c'est Julien Santini.
Merci beaucoup. Allez, c'est parti pour un billet humoristique. On va rigoler. J'espère, Katelle, vous allez rigoler. Il faut avoir envie de rigoler. La semaine dernière, je pars faire une date de ma tournée triomphale à Toulouse, ville à l'histoire contrastée qui a vu naître Saint Thomas d'Aquin et Claude Nougaro, mais aussi Jean-Pierre Madère et Tom Baldetti. Et pour me rendre à Toulouse, je suis obligé de prendre l'avion. À peine le mot avion prononcé que déjà un sentiment insidieux de malaise commence à se répandre autour de la table de la bande originale. Et c'est normal, oui, car l'avion, c'est pas bien. Donc, je vais me justifier. Notre train avait été supprimé parce qu'il y avait la tempête Niels qui avait fait des ravages dans la région de Toulouse. J'imagine que dans ton journal télévisé, tu as dû dire les... Et la tempête Niels, ouais, c'était pas prévu. Et puis je me suis dit, ça sert à rien. Et donc l'avion, lui, mais je t'aime trop. L'avion, lui, apparemment, est maintenu. Et je ne sais pas si ça, c'est une bonne nouvelle. Je rentre dans l'avion accompagné de mes acolytes, Marcouche et Anthony. Je demande au steward qui s'appelait Alex. Alex, est-ce que vous pensez que ça va aller au niveau des turbulences? J'ai peur. J'adore faire ce petit jeu dans un avion en appelant la personne par le prénom que je lis sur son pull ou avec le caissier au supermarché avec son insigne. Je trouve c'est rigolo parce que on fait comme si on se connaissait alors qu'on se connaissait pas. On dit bonjour Béatrice. Et moi je trouve vraiment que c'est rigolo. Ce à quoi Alex me répond que ça va aller. Je le trouve tellement rassurant que je lui demande est-ce que vous accepteriez de me donner la main si jamais ça ne va pas. Et il a dû trouver ça un tantinet chelou parce qu'il m'a répondu oui mais attention je suis marié. Et je comprends pas pourquoi il dit ça parce qu'il se trouve que moi aussi je suis marié. Mais je peux vous dire que si j'ai le sentiment que le vol est mon dernier vol, ciao les conventions. En attendant de mourir, je décide de lui acheter un café parce que c'est un vol low cost et que tout est payant. Et mon père m'avait toujours prévenu. Le pas cher revient cher. Il me le disait dans sa langue. Le pas Julien, écoute-moi, au vieux. Le pas cher revient cher. Je demande alors à Alex si c'est possible de me l'offrir, ce café, parce que voilà, depuis que je suis petit, je tire toujours une jouissance énorme de ne pas payer le prix initial. Là, c'est pas le côté que... Et Alex de répondre, je vous propose que l'on joue ça au Shifumi. C'est drôle parce que je voyais tous les voyageurs dans l'avion qui attendaient de pouvoir faire leur commande et je me mets à leur place. Eux, ils entendaient juste un tiwart et un passager faire « papier, caillou, ciseaux ». En plus, ils se la pètent trop, Alex, parce qu'ils me disaient « aucun passager ne m'a jamais battu à ce jeu ». La première information, c'est quand même la confiance du gars. Mmh. Et la deuxième, c'est au lieu de mettre en avant qu'il prend soin des passagers, il nous raconte qu'il les massacre au Shifumi. Et je vais vous dire, il avait raison d'être confiant, puisqu'effectivement, il m'a massacré.
Oui.
Mais je me suis pas laissé faire, parce que je lui ai répondu « écoute-moi bien, Alex Santelli du village de Calagucha, tu viens de manquer de respect à Antoine Campana, originaire de Sangavino di Fiumorbo, mes ancêtres avaient aidé Pasquale Baulubabdiabadria à rédiger la première constitution démocratique qui a inspiré plus tard celle des États-Unis d'Amérique. C'est lui que tu viens d'offenser en jouant au Shifumi. » Alors, je suis désolé, hein, mais en ce moment, je suis à fond dans Plaine Orientale saison 1 sur Canal+, et c'est chambé. C'est aussi important d'ajouter que si je suis prêt à remettre mon personnage de Corse dans une chronique, c'est que vraiment, quand je l'écris, je me dis cette histoire de Shifumi, est-ce que c'est pas un peu fragile? Bref, le vol se passe et Alex revient vers moi. Il me fait une confidence. Je vous informe que l'atterrissage va vraiment être mouvementé. Quand il a dit ça, j'ai entendu « ta peur est légitime, va te chier dessus, frère. » Et vous savez quoi? Il avait raison, c'est mouvementé. L'avion bouge très fort. Anthony, mon frérot à ma droite, il faut savoir que c'est mon rock. Quand je le vois regarder la photo de sa femme, les yeux humides... comme un poilu l'aurait fait pendant la Grande Guerre, en commençant une lettre par « Ma chère Betty, si tu lis ces mots, Anthony, par son body language, ne me rassure pas. Marcouche ne me rassure pas plus à ma gauche. Il voulait absolument être à côté du hublot. Et c'est totalement con parce qu'il n'en profitait absolument pas. Il avait juste les mains sur ses tympans, car tu comprends, Julien, un jour, je me les suis crevé. Donc depuis, je fais attention. Il bougeait, comme ça, un petit peu à la façon de Rainman, en disant « Maman, maman me disait... » Je vois autour de la table et je sais que les auditrices et auditeurs trouvent le suspense insoutenable et ne connaissent pas l'issue de ce vol. Alors oui, je vais vous le dire, nous avons réussi à atterrir finalement. J'ai applaudi très fort, mais j'étais le seul dans l'avion à avoir cette générosité. J'ai même voulu remercier le commandant de bord en personne. J'ai donc demandé à Alex qu'il me le présente. Et ce dernier m'a répondu « Uniquement si tu gagnes à Shifumi ». Je lui ai dit « Impossible Alex, je suis marié ». Je rencontre le capitaine. Je lui dis « Thank you so much, captain. The atterrissage was unbelievable ». Parce que oui, je commence à prendre des cours d'anglais, que ça paye. Il a dû me trouver plutôt chaud en anglais parce qu'il m'a fait une tirade de 2 minutes que j'ai absolument pas comprise. Mais comme j'ai énormément de fierté, j'ai répondu « Please, mind the gap between the train and the platform ». Vous voyez, parfois dans la vie, l'essentiel, c'est pas de se comprendre, c'est d'aller dans la même direction et de savoir atterrir, comme j'essaye de le faire, tant bien que mal, avec cette fin de chronique, peut-être un peu fragile. Applaudissez-moi, je m'appelle Julien Santini et je vous remercie de m'avoir écouté. Yes.
Julien Santini sur scène, il sera le 6 mars à Marseille, il sera à Bourg-les-Valences le lendemain, le 7 mars, et à Nancy, ce sera le 12 mars toujours.
On s'intéresse à votre bande originale, Katel. Et on va commencer dans les années 80, en 88 précisément, vous écoutiez.
Je crois que je deviens vraiment
On va parler de votre enfance alsacienne avant d'en arriver aux arts décoratifs de Strasbourg. Vous grandissez en partie dans la librairie de votre grand-père à Strasbourg, la librairie Gutenberg.
Oui, c'est ça. Bien informé.
Ouais, ouais. Où vous lisiez déjà pas mal de bandes dessinées, d'albums, et vous dessiniez déjà.
J'ai toujours dessiné, et d'ailleurs... pas dans la librairie, plutôt dans la maison de mon grand-père qui avait une grande pièce remplie de livres et avec une grande table ronde au milieu, et il me donnait des crayons, des papiers. Et une fois que j'avais dessiné tout ce qui me passait par la tête, il collectait mes dessins, il les collait dans des cahiers qu'il mettait dans ses bibliothèques, donc ça avait une certaine valeur. Et il y avait ce calme, puis cet amour des livres, donc je crois qu'il me l'a transmis en effet.
Comment est-ce qu'on transmet l'envie à un enfant de continuer à dessiner? Parce qu'on dessine tous quand on est tout petit, mais à un moment, j'ai l'impression que chez certains d'entre nous, ça s'arrête. Et chez d'autres, ça se poursuit. J'entendais Pénélope Bagieux justement dire il n'y a pas très longtemps qu'elle avait eu l'impression qu'enfant, il y avait tellement toujours du papier et des crayons à disposition que c'était désacralisé de dessiner, qu'on lui disait pas sans cesse « Oh, c'est joli, oh, c'est beau », donc ce qui faisait qu'elle dessinait sans cesse. Et vous, est-ce que vous avez transmis cet amour du dessin à vos filles, par exemple ?
Ah, alors, moi, oui, je l'ai fait très naturellement, puis j'avais des parents professeurs qui au contraire, étaient très ravis qu'on dessine comme on fasse la musique, comme on fasse oui. des choses qui nous fassent plaisir, donc on avait cette grande liberté. Pour mes filles, c'était un peu plus compliqué, parce que oui, elles ont dessiné, elles étaient plutôt douées l'une et l'autre, mais en voyant leur mère, ça les a bloquées très vite.
Et, oui.
et donc, elles ont cherché d'autres moyens de s'exprimer. Mon aîné, finalement, fait du scénario, de oui. bande dessinée et de films aussi. Elle a réalisé son premier film. Et ma plus jeune, elle est réalisatrice aussi. Et elle a travaillé sur beaucoup de longs métrages,
mises
en scène. Et elle dessine aussi. Elle s'est fait un petit compte Instagram, mais elle dessine des maisons d'architecture à l'opposé de moi, c'est-à-dire avec des règles,
d'accord.
des choses hyper strictes. Et elle fait des dessins magnifiques, mais vraiment à l'opposé de ce que je fais, oui. Beaucoup plus spontané. Quoi.
Alors c'est vrai que c'est un professeur qui vous a finalement... orienté vers le dessin, parce que je crois que vous avez été saisi en plein vol de tentatives de caricature, c'est ça?
Mais oui, mais vous êtes très informée.
Ouais, on a quelques infos.
Voilà, j'étais pas très bonne élève.
Oui, vous avez été détenue pour ça, Katel.
Ouais, j'ai fait quelques années de prison pour ça. C'est que oui, j'avais un peu décroché à l'école. J'étais en plus dans une classe mathématique.
Vos parents étaient professeurs de sciences, hein, c'est ça?
Oui, plutôt scientifiques. Ouais. Ma sœur avait fait des études de sciences, mon frère plutôt aussi. Et moi, j'avais complètement décroché. J'étais donc l'élève au fond de la classe près du radiateur et je caricaturais mon prof de maths en cochon avec les cheveux gras, jusqu'au moment où il m'a donné une petite tape dans le dos en disant « Mademoiselle Muller, je vais convoquer vos parents
».
Donc l'horreur, j'ai prévenu mes parents que ça allait être horrible, qu'il était très méchant et très mal intentionné. Et donc, prévenus, ils arrivent, ils tendent le dessin, la caricature. Mes parents sont effondrés, s'excusent platement. Et ils leur répondent « Non, mais c'est très ressemblant, c'est formidable. Il faut absolument qu'elle fasse du dessin, elle n'a rien à faire dans un cours de maths. »
Mais comment s'appelle ce professeur, vous vous souvenez?
Eh bien non, j'ai perdu ça.
Ah là là.
Je me rappelle bien de mon professeur d'histoire géo, Farouk Günaltay, qui m'a ouvert justement à la grande histoire. Mais alors, ce prof de maths, c'était tellement compliqué pour moi, ce rapport, que j'ai bizarrement occulté son nom. Mais je le remercie s'il lui se souvient. Parce qu'il a changé ma vie. Un excellent prof. Parce qu'il a dit, moi j'aurais voulu faire du violon, je n'ai pas pu, votre fille, il faut qu'elle fasse du dessin. Mettez-la dans une section de dessin, ce qui s'est passé.
Et les arts décoratifs de Strasbourg.
Avec les arts déco, j'ai fait le concours, j'y suis rentrée et j'ai pu arrêter, voilà.
On passe aux années 2000, vous écoutiez.
She's just a cosmic girl, from another galaxy. My heart's a zero.
ça faisait longtemps que j'avais pas entendu Jamiroquai, ouais. Ça me fait plaisir.
Les années 2000, voilà, ah ouais. Ça s'appelait voilà, le pop, le jazz, le soul, tout confondu. C'était un peu nouveau comme type de musique et ça correspondait bien à mes années parisiennes.
Les années déglingues.
C'est ça.
Oui, vous arrivez à Paris et vous intégrez brièvement l'équipe de Fluide Glacial.
Oui, alors à ce moment-là, je suis déjà mariée, j'ai deux enfants, j'ai fondé ce qu'il fallait pour me lancer à fond dans mon métier. Et là, eh ben, je rencontre la bande de Fluide Glacial grâce à Blotch aussi, mon ami aussi des Arts Déco de Strasbourg. Je fais quelques dessins humoristiques et puis surtout, j'ai envie de faire une bande dessinée humoristique. Je commence quand même par ça et je crée avec Véronique Grissot un personnage qui s'appelle Lucie, qui est un peu la Bridget Jones avant l'heure. Fin des années 2000.
Une trentenaire.
Fin des années 99, pardon. Et au début des années 2000, une trentenaire, ses problèmes du quotidien.
Vous créez ça dans un univers hyper masculin, parce que Fluide Glacial, il n'y a pas beaucoup de filles à l'époque.
On est absolument, on est les seules.
Oui.
Il n'y a pas d'autres voilà. À ce moment-là. Donc les Schtroumpfettes, c'était nous. Ouais. Et puis on s'en émancipe très vite, parce que j'étais un peu mal à l'aise, à vrai dire, quand même, de me retrouver toute seule au milieu de tous ces hommes qui étaient charmants individuellement, mais ensemble, c'était un peu une équipe de foot. Et donc, je ne suis pas arrivée à rester. Contrairement à Claire Bouillat, qui, elle, va arriver peu de temps après, qui va rester, d'accord, qui va arriver à se confronter à ça. Moi, j'ai un peu pris peur quand même, je dois avouer. Et surtout avec la complicité de Grissot, on a pu présenter notre scénario humoristique à une maison d'édition qui nous l'a pris, les Humanoïdes Associés. Oui. Et on a fait notre première bande dessinée qui a été remarquée par justement un certain Jean Dujardin,
Alexandra Lamy,
la productrice, ouais, qui nous a demandé pour une nouvelle série de faire des scénarios, des dialogues, voilà, un gars, une fille, et c'est comme ça qu'on a commencé cette série. On savait pas du tout où on allait, ouais, mais on s'est bien amusé.
Une belle histoire, on passe à 2003.
Puisque vous partez en voyage, puisque nous nous quittons ce soir.
Hardy Dutronc, le couple en chanson, puisque vous partez en voyage pour évoquer votre rencontre avec Jean-Louis Bocquet, que vous avez évoqué tout à l'heure au Festival d'Angoulême.
Voilà, coup de foot, José-Louis Bocquet, deux mariages fichus, mais pas de nouveau bébé en perspective, mais quelques BD.
C'est pas mal, c'est pas
donc
mal.
On change nos vies, voilà, on prend le train, on se retrouve, il est en Bretagne, moi à Paris, puisque vous partez en voyage.
Oui, d'accord.
Et c'était la musique qu'on avait, qui passait à ce moment-là sur toutes les radios, donc on se retrouvait beaucoup sur les quais et on avait envie de créer ensemble quelque chose. Justement, moi j'avais envie de raconter des histoires de femmes comme Lucie, mais de l'incorporer dans la grande histoire. Oui. J'avais déjà fait une tentative avec Christian de Metter, enfin pas une tentative, un livre carrément, qui était, oui, Le sang des Valentines, qui avait eu un prix, oui, d'Angoulême, sur la grande histoire, une histoire de femme dans la grande histoire. Mais là, j'avais envie de creuser encore plus, d'aller plus loin. Et
vous inaugurez cette collection, Les Clandestines de l'Histoire, avec Kiki de Montparnasse.
Voilà. Alors, c'était pas du tout une collection au début, comme,
oui,
je racontais. C'était,
mais voilà, ça va devenir
ça,
une.
Et c'est devenu, voilà, notre marque de fabrique un peu, qu'a-t-elle évoqué. Et on a, voilà, travaillé après sur, ouais, on disait Olympe de Gouges, Joséphine Baker, puis Alice Guy, la première réalisatrice, ouais, de cinéma.
Je crois que j'en ai pas loupé. Hein. Ouais.
Puis, ouais, puis quand même, Anita Conti, oui, océanographe, première, oui, écologiste.
J'en ai pas loupé. Hein. On est bien. On va continuer de parler de Colette avec notre invité. Frédéric Maget nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la maison de Colette, auteur de nombreux livres, dont Notre Colette, un portrait de Colette par ses lectrices aux éditions Flammarion. Là, ça fait 10 ans, en fait, que la maison est ouverte au public.
Exactement.
La maison de Colette à Saint-Sauveur en Puisaye, c'est ça ?
En Puisaye.
En Puisaye. Avec une exposition qui met à l'honneur plusieurs dessinatrices, dont Catel ici présente. C'est vrai qu'on a l'impression que la vie de Colette précède son œuvre, tellement on a la sensation de la connaître plus à travers, justement, sa période cabaret, ses amours, ce petit côté un peu sulfureux. Est-ce que c'est représentatif dans l'esprit des gens?
Ce qui est vrai, c'est que la vie et l'œuvre chez Colette sont inextricablement mêlées. La vie inspire l'œuvre, l'œuvre transforme la vie. Sans doute que cette vie tout à fait extraordinaire dans ce premier demi-siècle a un peu effacé l'écrivaine. Et en même temps, il faut reconnaître qu'elle lui a permis d'échapper à l'effacement qui, malheureusement, oui, guette beaucoup de créateurs et beaucoup de créatrices singulièrement. Et donc, il faut reconnaître que cette vie l'a sauvée de l'oubli. Il est peut-être temps maintenant de revenir à l'œuvre.
C'est ça. Louis Aragon disait d'elle que c'était le plus grand écrivain.
Oui, il n'est pas le seul. Hein.
Oui.
Lui, Henri de Monterland, Marcel Proust, André Gide, tous les grands créateurs de la première moitié du XXe siècle ont reconnu le génie littéraire de Colette. Elle a été une source d'inspiration aussi pour beaucoup de créatrices. Hein. On ne le dit jamais assez, mais Colette est l'autrice la plus citée par Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe.
Dans le deuxième sexe. Est-ce qu'elle a connu le succès de son vivant ?
Elle a connu le succès immédiatement, hein, puisque la parution de Claudine à l'école au mois de mars 1900 est un phénomène littéraire et culturel. Hein. La série des Claudines, c'est le plus gros succès littéraire de la Belle Époque, mais un des plus gros de toute l'histoire de la littérature. Entre les droits d'auteur, les produits dérivés, les adaptations seraient rapportés à Willy 15 millions d'euros actuels. Hein, c'est considérable. Mais évidemment, cette célébrité n'est pas totale, puisque c'est lui qui a signé les premiers romans, donc c'est lui qui tire les marrons du feu. Il faudra à Colette quasiment un quart de siècle pour se faire un nom, puisqu'elle ne signera de son nom Colette qu'à partir de 1923.
Et c'est quoi sa première œuvre signée de son nom ?
Alors, elle commence par signer Colette Willy, parce que Willy étant plus célèbre qu'elle, elle se dit qu'il faut quand même garder ce nom-là. Et elle va signer Colette Willy, puis Colette entre parenthèses Colette Willy, et à partir du début des années 20, Colette uniquement.
Éclosion progressive du personnage.
Une conquête.
Willy qui a profité d'elle, qui l'a exploité, on le dit, mais sans qui peut-être son itinéraire n'aurait pas été celui-là.
Oui, dans la vie, tout est toujours beaucoup plus compliqué. Effectivement, je pense qu'au départ, c'est un pacte de dupes. C'est-à-dire qu'au départ, je pense que Colette avait envie d'écrire. Elle était arrivée avec un manuscrit déjà mal ficelé, mais qui était déjà existant. Et au départ, elle ne voyait aucun inconvénient à ce qu'il signe son premier roman, en partie parce que cette évocation de sa jeunesse était aussi une vengeance à l'égard des habitants de Saint-Sauveur, qui avait poussé sa famille au départ. Et donc, ça aurait été en quelque sorte comme si le corbeau avait signé son crime, en quelque sorte. Mais ce qu'il ne s'attendait pas, ni l'un ni l'autre, c'est que ça allait être un énorme succès. Et là, elle s'est retrouvée enfermée, en fait, dans le rôle de productrice de la série des Claudines. Et il va donc falloir se libérer de cette emprise, de ce qui était une emprise.
Dans son œuvre, on a l'impression que l'amour est toujours voué à la catastrophe. Et pourtant, dans sa vie, elle s'est mariée à trois reprises. Est-ce que c'est pas là une contradiction assez étonnante ?
Aussi, c'est une contradiction. Hein. D'ailleurs, sa mère le lui disait quand elle s'est remariée avec Henri de Jouvenel : « Tu t'es donné un nouveau maître, mon pauvre toutou. » L'amour, Colette disait...
réconfortant.
On aime bien cette mère. Ouais.
L'amour n'est pas un sentiment honorable. Hein. C'était une parole qu'elle prête à sa mère. Colette s'est mariée. Elle a eu des maîtresses. Elle a eu des amants. Elle a vécu une vie libre, gardant comme règle de vie cette phrase qu'elle place lorsqu'elle a 30 ans, je veux faire ce que je veux. Mais la force de Colette, c'est pas de l'avoir dit, c'est de l'avoir fait.
Alors, on a parlé d'elle en tant qu'auteur, autrice, journaliste, aussi son passage au music hall, ses danses, son effeuillage, cette liberté aussi sexuelle qui se limitait pas à sa vie d'artiste. Quand on évoque la période de la Seconde Guerre mondiale, il y a encore des questionnements autour de Colette.
Oui, c'est une chose qui m'étonne. Ça revient un peu comme les marronniers chaque année. On s'interroge sur ce que Colette aurait fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, elle a passé la Seconde Guerre mondiale à Paris, comme elle avait passé la première. Elle a continué à travailler parce que, vous l'avez dit, pour Colette, gagner sa vie, c'était la condition même de son indépendance. Donc, elle a continué à publier des livres et des articles. Quand on lit ces textes-là, ce sont des textes où, en fait, elle donne des conseils aux femmes sur comment faire pour affronter les pénuries, le froid. Donc, il n'y a absolument rien à lui reprocher de ce point de vue-là. Et surtout, l'horreur va surgir dans sa vie, puisque au mois de décembre 1941, son mari, qui est juif, Maurice Goudkett, va être arrêté pendant la rafle des notables. Elle va réussir, au prix d'une lutte insensée, à le faire libérer. Et de 1942 à la fin de la guerre, Colette ne publie quasiment plus aucun article dans la presse, de peur, justement, de se voir reprocher une forme de collaboration. Oui. Et d'ailleurs, le public n'est pas dupe d'attirer l'attention sur son mari, sur elle.
Parce qu'elle a publié quand même dans une édition arienne pendant l'occupation.
En fait
c'est ça aussi
l'ambiguïté
qui a pu être reprochée à Colette.
Oui, en fait, elle a continué à publier. Elle a publié un livre, notamment Aux armes de France, qui était la version arianisée de Calman Levy, en réalité. Mais là où je trouve assez fort chez Colette, c'est qu'elle publie ce livre, on pourrait lui reprocher. Mais qu'est-ce qu'elle publie ? Elle publie Le pur et l'impur, qui est un hymne à l'homosexualité féminine et à toutes les formes de sexualité. Donc je trouve assez fort, quand même, de la part de Colette, d'avoir réussi à faire passer, dans une édition arianisée, un texte qui était est à l'opposé total des valeurs prônées alors par l'occupant. Et en 1945, à la fin de la guerre, elle est célébrée par les Anglais, par Aragon, elle est élue à l'Académie Goncourt, comme vous savez, et Gigi va la consacrer comme le grand écrivain du bonheur de l'après-guerre.
Est-ce que c'est vrai que le blé en herbe lui aurait coûté d'être la première femme qui aurait pu faire son entrée à l'Académie ?
Oui, alors ça c'est une très 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 jolie anecdote. En effet, il a été longtemps question d'élire Colette à l'Académie française. Elle aurait pu être la première femme, on en parle dès 1910. Oui. Mais en 1923, lorsque tout est prêt pour son élection, padaboum, elle publie Le blé en herbe dans Le Matin. Et là, scandale, les lecteurs évidemment écrivent au journal pour demander qu'on arrête la publication de ce roman qui raconte l'initiation sensuelle d'un jeune homme de 16 ans et demi par une femme un peu plus âgée, de 30 ans. Mais là où on se trompe, c'est que les lecteurs n'ont pas demandé l'interruption en raison de ce sujet-là, mais parce qu'elle allait décrire une relation sexuelle entre deux adolescents hors mariage. Mmh. Et ça paraissait au lecteur beaucoup plus scandaleux que la relation d'amour avec une femme un peu plus âgée.
Merci Frédéric Magé. On vous lit donc Notre Colette, un portrait de Colette par ses lectrices aux éditions Flammarion. Et puis Voici Landru, chronique judiciaire de Colette aux éditions Le Domaine Archipoche, avec une petite visite donc bientôt dans la maison de Colette. C'est ça l'idée.
Exactement. Voilà, vous êtes les bienvenus. Et à partir du mois de mai, pour découvrir Catel et les dessins de jeunes créateurs d'écoles d'animation qui ont créé des petits films à partir de textes de Colette.
Dessine-moi Colette, c'est le nom de l'exposition du 20 mai au 19 juillet. Merci Frédéric Magé. Tanguy Pastureau est avec nous. Bonjour Tanguy, de quoi on parle tout à l'heure ?
Eh bien d'un homme en Italie qui a été arrêté puisqu'il croquait les bouts de tranches de parmesan dans les supermarchés. On l'appelait d'ailleurs sur place le croqueur de parmesan.
Le retour de la bande originale avec Emma Beaujean, avec Julien Santini,
bonjour.
Tanguy Pastureau, Daniel Morin,
bonjour Julien,
Oldelap, et notre invité, Catel Muller.
Ouais, bravo Catel, Catel, bravo Catel.
La bande originale, Leïla Kadou.
Catel Muller, notre invité pour parler de cet album que vous co-signez avec Claire Bouillac, Gigi, d'après Colette, un super bel album qui sera en librairie dans pas longtemps, au mois de mars.
Voilà, mars.
Avec un album en couleurs, et justement les couleurs elles ont leur importance puisque tout d'un coup ça reflète une époque. On est donc on est dans les années 1890, dans ces eaux-là, à Paris, avec cette jeune femme Gigi qui a 15-16 ans à peine et qui évolue en fait seule, isolée, dans une sorte de gynécée avec sa mère qui s'occupe peu d'elle, qui chante à l'opéra. Et d'ailleurs justement, on a un peu de musique classique qui vient sillonner l'album avec les airs chantés ou les représentations. Cette mère qui souffre de ne plus être celle qu'on regarde en premier sur scène et qui sans doute a eu une existence de courtisane par le passé mais pas vraiment réussie. La grand-mère de Gigi et sa tante ont une grande ambition pour elle, la faire entretenir par un homme riche. Et c'est là que Gaston Lachaille, le tonton Gaston, grand sucrier qui a fait fortune dans le sucre, va arriver et tomber sous le charme de cette jeune femme à qui on apprend toutes les conventions sociales pour être entretenue. En gros, texte que vous avez choisi avec Claire Bouillac, représentatif pour vous aussi d'une partie de l'histoire de Colette.
Tout à fait, c'est l'histoire aussi d'une époque, c'est l'histoire de l'émancipation féminine de la fin du 19e siècle dans un certain milieu, des coquettes, de la bourgeoisie. C'est extrêmement difficile en fait de se rendre compte à quel point pour ces jeunes femmes la vie libre était pratiquement impossible.
C'est vrai.
Et c'est en réalité exactement ce qu'a vécu Colette elle-même. Mmh. D'une autre façon, de façon déguisée, elle raconte ça à travers ce milieu des cocottes, mais c'est finalement cet empêchement pour une jeune femme, si elle ne passe pas par le mariage ou d'être entretenue par un homme, de pouvoir vivre par elle-même.
Oui.
Alors, sinon, il faut être ouvrière, changer de classe sociale. Là, évidemment, il y avait des femmes qui travaillaient. C'est une autre vie, mais dans ce milieu de la petite bourgeoisie, pour une femme, et c'est absolument impossible, finalement, de vivre par elle-même et d'obtenir une certaine liberté.
Et c'est intéressant de voir une adolescente, parce que c'est aussi ce moment où on change d'âge, où on n'est pas encore complètement adulte, qu'on est à la lisière de ce monde un peu cruel avec ses règles, où cette naïveté, cette fraîcheur vont faire son attrait, mais elle est doublée, cette Gigi, cette Gilberte, d'une combativité assez extraordinaire pour son âge et pour le peu d'éducation qu'elle a reçue en la matière. Elle a naturellement une forme de lucidité sur sa condition. Texte qui sera adapté en pièce de théâtre à Broadway avec Audrey Hepburn et puis qui fera l'objet d'un film, on l'a dit, oscarisé à de nombreuses reprises avec Leslie Caron et Maurice Chevalier.
Et même d'un film de femme, Jacqueline Aubry, oui. Dès 1949.
Oui.
Une des premières réalisatrices, c'était intéressant, mais complètement disparue de l'histoire.
Avec la représentation aussi de cette Gigi, avec ce catogan, avec cette jupe à carreaux. Enfin, on voit bien restituer dans l'album cette tenue de cette jeune fille qui fait encore petit enfant, finalement, et qui se transforme quand elle a une robe longue en femme assez majestueuse.
Oui, exactement, c'est cette transformation de l'adolescente à la femme, cette chrysalide qui devient voilà, cette femme, en apparence, parce qu'elle reste très jeune et très candide, mais c'est vrai que ses formes changent et on s'illusionne aussi sur finalement son mental et sa maturité. Et heureusement, Gigi a une personnalité très forte, en dépit des apparences où elle a l'air gentille, un peu soumise, en réalité, elle est sincère, elle a un tempérament bien trempé à elle et elle ne veut pas vraiment changer. Elle a du mal à s'accommoder à ce qu'on lui demande. Et c'est ce qui sera sa force, en fait. C'est de rester intègre elle-même, ne pas vouloir à tout prix se caser. Et c'est ce qui va réellement plaire à ce fameux Gaston
qui
va tomber amoureux d'elle pour ce qu'elle est, exactement comme Colette avec Willy, qui a été finalement sous le charme de cette petite bourguignonne au fort accent, mais qui avait un vrai tempérament, une vraie sensibilité. Et un caractère bien à elle.
Et un courage assez extraordinaire quand on voit la condition des femmes dans cette époque-là. Gigi, donc, chez Dargaud, Claire Bouillac et Katel Müller. Et tout de suite, dans la bande originale, c'est Tanguy Pastureau.
Oh ouais. En ce moment, je tourne, mais non, pas au cinéma, mais non, pas sur moi-même, mais non, pas dans une cave. Je tourne, je fais mon spectacle à travers la France. Et vous savez que je suis branché terroir, je peux jouir à la seule vue d'une coiffe traditionnelle. Si bien que les gens pensent que je suis un fétichiste de la tête. Lundi, souvenez-vous, je vous avais dit qu'à Caen, on m'avait offert des Jeannettes, des madeleines typiques du coin. Ouais. Sympa, mais ça se boit pas, ou alors faut les garder en bouche très longtemps. Mais demain, je joue à Cognac, et je mise beaucoup sur cette soirée. À Cognac, il y a le Cognac et le Pinot. Vous connaissez ça, Leïla, pour votre réputation, essayez de pas me répondre avec trop d'enthousiasme. J'adore les spécialités locales. C'est ce qui fait l'identité d'une région. Le Pas-de-Calais, c'est le Welsh. Aix-en-Provence, les calissons. En Bretagne, les crêpes. Dans les Hauts-de-Seine, l'argent. Et malheureusement, je ne fais carrière qu'en France parce que j'adorerais aborder les spécialités des autres pays, surtout l'Italie. La pizza, la pasta. Oui, j'ai un toc bizarre. Dès que je parle de trucs italiens, je prends cet accent ridicule. Monica Bellucci, Carla Bruni. Avec les rêves françaises, ça ne me fait pas ça. Jamais je dis Daniel Morin. On pensait que j'ai un os de poulet coincé dans la glotte. Ce serait ridicule. Et hier, j'étais sur Macaque TV. Je prenais des nouvelles de Ponche, le bébé macaque. Hier, il a fait caca. Il a joué sur un rocher. Quand soudain, j'ai vu passer un article sur un retraité italien qui, après des mois de traque, s'est fait choper. Là, vous pensez mafia, crime d'honneur, rectus inquiétant, veste noire. Tout ce que Julien Santini, qui est corse, connaît aussi. Eh bien, pas du tout. Ce retraité, depuis des mois, se rendait dans un supermarché et grignotait des bouts de tranches de parmesan avant de les remettre en rayon. Pourquoi ? On ne sait pas. Peut-être qu'il s'identifiait en tant que souris. Sur place, on l'appelait le croqueur de parmesan. Quand les autres te donnent un petit nom bizarre, s'il y a quelque chose en toi qui débloque. Le bûcheron maléfique, le taré du métro, le boucher des Ardennes, la fan d'Amel Bent. Rien de tout ça n'est rassurant. Depuis Col de la Fissi se fait appeler le guitariste étrange, il déjeune seul à la cantine. Ça faisait des mois que le croqueur de parmesan faisait ça. Tous les jours, il bouffait les pointes. Ce qui, chez Franck Provost, aurait posé encore plus de problèmes. Puis, il laissait le reste du parmesan dans le rayon. Et encore, il avait une transition normale. Mais vous foutiez le prince William là-dedans, il défonçait toute une mimolette. On a tous vu des gens au supermarché manger dans les rayons. Je trouve ça absurde de ne pas attendre d'être en caisse. Je veux dire, quand tu vas chez Leroy Merlin acheter des planches, tu ne montes pas ta cabane de jardin à l'entrée de l'espace salle de bain. Mais là, tous les jours, le croqueur de parmesan croquait. La moitié de ce qu'il avait dans le ventre, c'était du parmesan. Vous lui ouvriez le ventre, vous mettiez les pattes en dessous, c'était l'équivalent d'une râpe à fromage. Avec du fromage déjà digéré, mais on gagnait un temps fou. Mais cette semaine, l'équipe du supermarché a agi. Ils se sont planqués, sans doute déguisés en parmesan. Un mec qui s'était pas mal gratté pendant sa varicelle jouait le rôle de l'emmental. Là, un homme
s'est approché, casquette, cheveux blancs, lunettes noires. Et ça, c'est un signe. Toutes les stars avec des lunettes noires que vous voyez sont en réalité des croqueurs de parmesan. Catherine Deneuve, en 110 ans de carrière, s'en est déjà tapé 900 meules. Hein, sa relation avec Mastroianni, c'était uniquement pour le fromage. Hein, le jour où sous sa cloche à fromage à Mastroianni, il n'y avait plus rien, elle s'est barrée. L'homme, âgé de 70 ans, était donc sous surveillance. Hein. Il a pris du parmesan, il a croqué dedans, l'équipe a crié « C'est le croqueur de parmesan !» Et ils l'ont enfermé dans une coque de Babybel géante avant de le livrer à la police. Là, vous allez me dire, il faut encore prouver sa culpabilité. Mais facile, il y avait 1000 tranches de parmesan avec ses empreintes dentaires. Il était foutu, à moins de s'arracher une dent par jour pour ne jamais avoir la même empreinte, c'était cuit et il aurait fini à la fin du mois par essayer de découper le fromage entre ses deux gencives, comme Rémy dans Ratatouille s'il avait abusé de l'héroïne après un succès mondial. Alors, le croqueur de parmesan interrogé a d'abord répondu parce qu'il avait du parmesan plein la bouche, puis il a avalé et il a expliqué, c'est fou, que c'était plus ou moins une pulsion qui n'arrivait pas à réfréner. C'est-à-dire que ce monsieur au rayon fromage entrait en surchauffe. Hein, peut-être qu'une fois, il a dit à une mozzarella en sueur, toi j'adore ton boule. C'est terrifiant de savoir que des individus n'arrivent pas à réfréner leur envie de fromage parce qu'une dame respectable comme Martine Aubry, rien qu'à cause de son nom, est obligée de se méfier de ces gens-là. Voilà. Tout ça pour vous dire que le croqueur de parmesan a provoqué des centaines d'euros de pertes pour le supermarché. Si c'était associé à la gobeuse d'œufs de caille et au dévoreur de saumon fumé, le supermarché fermait. Donc techniquement, il n'a été pris en flagrant délit qu'une seule fois, donc il doit 15 euros seulement à la boutique. Ah. Le croqueur s'en sort bien. Et le souci, c'est que ça risque de servir d'exemple à d'autres. Il ne va plus y avoir un parmesan non entamé sur cette saleté de planète. Je suis contre la retraite, parce que les gens qui y sont ont trop de temps disponible. Non mais c'est vrai, si vous êtes occupé, vous croquez pas de parmesan dans un supermarché, vous courez après un RER, un enfant, une deadline, j'en sais rien quoi. Mais la retraite, c'est un fléau, c'est atroce. On commence par nourrir les pigeons en chaussons, on finit comme un con par grignoter des produits AOP. Aujourd'hui, le parmesan, demain le rayon charcuterie, après-demain on lâche les étiquettes des prix en lisant c'est pour voir. Donc je le dis solennellement, reprenez une activité, n'importe laquelle. Faites du tricot, du yoga, de la poterie, montez une start-up de sac en toile, devenez influenceur asperge, mais ne devenez pas des gens désœuvrés seuls face à 36 mois d'affinage. Demain, je joue à cognac, si quelqu'un me fait flamber à l'alcool parce qu'il m'aura pris pour une banane, au moins ce sera local. Et vous savez que j'adore les spécialités locales.
Vous l'aurez compris, hein, si vous avez une grosse envie de Tanguy, c'est demain à Val de Cognac, près de Cognac.
Absolument, en Charente, bien entendu, dans le Poitou. Et je vous propose une petite pause musicale, forcément avec un petit clin d'œil à Colette. Gigi, une Paradisco, tout simplement.
Gigi, une Paradisco. Sûr de lui, fallait-il seulement qu'il sourit? Les anges étaient tous fous de Gigi. Il donna des galas gratuits, les saints ont chanté toute la nuit. Il leur parla de ses amis qui un jour allaient rejoindre Gigi. Jusqu'au matin, du disco à ses vieux refrains.
Paradisco sur France Inter, Dalida, en clin d'œil à Colette et à ce texte adapté par Katel Müller et Claire Bouillac. Et tout de suite dans la bande originale, c'est Emma Beaujean.
Oh,
et
ouais, c'est l'hommage.
J'en rêvais.
Bonjour tout le monde. Tous les jours, cette émission, je rends un hommage.
Ah oui.
Et aujourd'hui, j'ai décidé de rendre hommage au carrelage.
Oh non.
Alors oui, je vous avoue que j'ai eu cette idée hier soir, complètement bourrée, dans un bar, quand je me suis rappelé que je faisais une chronique tous les jours et que je n'avais pas d'idée pour demain. Je me suis dit, bah, tu peux toujours parler du premier truc qui te passe par la tête, le tout en position squat au-dessus des toilettes dans ce bar, nez à nez avec du carrelage. Allez, ça va, mais qui va me juger? Ça fait 2 ans, l'autre qui dit, je suis fan, et personne ne lui dit rien. Bon. Alors, non, en vrai, c'est vrai que quand t'es nez à nez avec du carrelage dans la vie, en général, c'est rarement bon signe. Soit c'est que tu cherches un objet perdu, soit que t'es en train de vomir, ou que t'es littéralement carreleur. Et là, c'est carrément ok, puisque c'est le seul job où les gens sont presque déçus s'ils ne voient pas l'arrêt de ton cul. Donc profite, mon grand. Oh là là, mais quoi? Je suis encore à 2 grammes. J'ai jamais trop kiffé le carrelage, moi, parce que mon père bossait à Saint-Maclou. Donc c'était un peu des gangrivaux, genre comme dans West Side Story. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai grandi avec des loups, moi, des loups-garous, garous de chanteur, le gars de Notre-Dame de Paris. Ah, on sait pas. Une autre comédie musicale, je suis défoncée ou quoi la team? On dirait que j'ai fumé des joints de carrelage. Daniel, essaye de suivre, s'il te plaît, tire l'anti tout le monde. Et donc, non, je sais pas, c'est juste que moi j'ai grandi à La Réunion et donc j'avais beaucoup de carrelage tout le temps. Et quand je suis arrivée en métropole, j'ai vu qu'il y avait vachement plus de parquets ici. C'est pas ma chronique la plus engagée. C'est plus du tout ce que c'était France Inter. D'ailleurs, c'est plus du tout ce que c'était les humoristes. T'imagines les Coluches et tout, là, les risques, l'engagement. Le mec s'est potentiellement fait assassiner pour ses idées. Moi, je suis là. Aujourd'hui, je rends hommage au penseur de mes à ce rythme-là, dans 3 semaines, juste on ramène notre chien à la radio, en fait, et on vous montre nos coloriages. Alors qu'il y a, en fait, c'est Nagui. Là, à côté, c'est Daniel. Et là, c'est l'argent que Nagui donne à Daniel. Et là, qui sort du cul du chien, c'est ma chronique. Tout ça pour vous dire qu'un souvenir, c'est avant tout des sensations. Un souvenir, c'est sensoriel. C'est le sol qu'on a sous nos pieds. Merci, vous avez les images, ça me régale. C'est fermer les yeux dans notre enfance et sentir sous nos pieds le jonc de mer, le carrelage parquet ou le poids de la culpabilité d'un père qui mène une double vie et qui va bientôt le regretter parce que maman va le remplacer par un autre chauve qui fera semblant d'aller au ping-pong et voir sa pouffe qui a déjà 22 Nathalie dans son téléphone. Mais manquez-vous, mais le carrelage, c'est un vrai sujet.
Oui.
Quand il reviendra, ne lancez surtout pas Nagui sur le sujet. Il va vous parler céramique fait main pendant des heures. Il va vous parler chauffage au sol. Il va vous parler azuero importé du Portugal. Et oui, chez Nagui, quand tu entres, il faut faire attention au carrelage. Et oui, il faut enlever ses Weston. Et oui. Et je comprends, il a le respect de l'artisan, de l'artiste. C'est une dinguerie, en vrai. Il y a du carrelage, c'est genre des motifs de ouf. Qui a dit que c'était ok de marcher sur de l'art? Vous marcheriez, vous, sur la Joconde? Bon, après, j'avoue, une fois, ici, j'étais aux toilettes, il n'y avait plus de PQ. Et le seul papier que j'avais, c'était ma chronique. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'une fois, je me suis totalement torchée avec la page 3 de mon hommage de calendrier de l'Avent.
Oh.
Et devinez ce qu'il y avait par terre dans les toilettes? Du carrelage. Un jour, vous comprendrez mon art. Un jour, vous comprendrez. En tout cas, je peux pas parler du carrelage aujourd'hui sans avoir une pensée pour. Non, y a rien. Je peux pas. Vas-y, ta petite conclusion, Emma. Bon, j'arrête l'alcool, c'est à ça que je rends hommage. Merci.
Et je pense que Katel est très intéressée par ton dessin. Vraiment, je pense que.
Katel, si ça vous intéresse, cette chose est sur scène.
Alors,
à Paris, c'est tous les mardis à 19h.
Sobre.
Moi, sobre total et pas bourré.
Non.
À 19h, au Théâtre Le Pic.
C'est ça, et c'est super. Et on continue à parler de Gigi, mais aussi j'aimerais qu'on dise un mot, Katel, de Ginette Kolinka contre la haine aux éditions La Sirène, qui est sortie en janvier, à la veille des 101 ans. De Ginette Kolinka, rescapée de la Shoah.
Ah oui, on change d'ambiance.
Hein. Ouais, c'est le côté chaud-froid, on aime bien. Voilà.
Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Ginette il y a quelques années et elle m'avait demandé, elle était venue à Fécamp, où j'ai mon atelier en bord de mer. Et elle était venue signer à la librairie. Elle avait sorti un livre sur son histoire avec Marion Ruggieri.
Oui.
Moi, j'avais déjà illustré chez Bayard Presse pour les enfants quelques épisodes de sa vie terrible, puisqu'elle a été internée dans les camps de concentration pendant la guerre. Donc, elle a connu l'horreur, déportée.
Elle est revenue seule. Ouais.
Et donc, on s'est vus et elle est restée le soir. On a discuté, on est allé au restaurant. Elle m'a dit, Katel, j'aimerais que vous dessiniez l'immontrable. Je dis, mais c'est pas possible, Ginette. J'aimerais que vous illustriez mon histoire, mais vraiment, il faut dessiner les latrines, il faut dessiner
là où on n'a pas de photos, on n'a pas, il nous reste rien et les mots ont certains poids, mais il manque des images pour créer un choc. Et les jeunes générations ne retiendront que les images quand ma voix sera partie. Waouh, le défi, donc j'ai pas pu, je lui ai dit que j'étais pas capable, je me sentais pas capable de dessiner ça, même si ça résonnait en moi, parce que j'ai aussi dans mon histoire familiale des résonances avec sa propre histoire. Mais ça a pris du temps, et puis au moment de ses 100 ans, je me suis dit, ça y est, là, il faut le faire, ça a mûri. Entre-temps, je l'avais interviewé quand même, je l'avais revu, interviewé, j'ai envoyé mes deux filles interviewer, la filmer pendant des années, et donc, il y a pas longtemps, je me suis lancée en récupérant ces interviews, en les montant, en les remettant en forme, avec mon mari José-Louis Boquet qui les a mis chronologiquement et synthétiquement ensemble. Et moi, j'ai illustré les moments forts qu'elle m'a demandé de dessiner en cherchant une technique appropriée, c'est-à-dire façon gravure, en noir et blanc, très simple, en regardant les dessins réalisés par les déportés eux-mêmes au retour. Et donc, j'ai, à sa demande, fait les endroits qui lui paraissaient les plus violents et difficiles à représenter pour qu'il reste cette trace. Et elle en était contente.
Vous avez la gentillesse de m'en offrir un exemplaire avec un mot de Ginette Colinca que je vais garder toute ma vie, et elle signe tout simplement avec ces chiffres que j'ai envie de vous lire, 78 599, c'est son matricule.
Voilà, qui reste gravé sur son bras, et quand on lui parle de négationnisme, et ben elle remonte sa manche et elle montre justement ce numéro en disant, est-ce que ça n'est pas une preuve ?
Ça, c'est Ginette Colinca, Contre la haine, aux éditions La Sirène, qu'a-t-elle que vous signez. Vous travaillez déjà sur un autre personnage. Rapidement, en deux mots, est-ce qu'il y a une femme qui fera l'objet de votre prochain album avec Claire Bouillac ?
Oui, alors
qui s'agit-il ?
Parce que j'ai deux choses. Je travaille avec José-Louis Boquet sur des grands personnages de l'histoire, et avec Claire Bouillac, donc sur cette collection de littérature féminine. Et donc, la prochaine sera Olympe de Gouges, un texte d'Olympe, sur l'esclavagisme au XVIIIe siècle, une pièce qu'elle avait donnée à la Comédie française et qui avait fait scandale à l'époque. Donc, on va essayer de l'interpréter en bande dessinée.
Très bien, Daniel, il est temps de présenter des excuses. Je t'ai réveillé, pardon.
Non, j'étais en train de réfléchir à un truc horrible. Désolé pour Katel, notre invité, qui nous a confié à la pause et surtout au début d'émission, écouter la bande originale tous les jours et s'est retrouvée ce matin face à ce qu'elle me disait, le pire casting de la bande. Et que Olaf chante du Tino Rossi. Et que Emma Beaujean rend hommage au Carla, s'il te plaît. Et que Julien Santini fait... du Julien Santini, pardon. Il faudra revenir, Katel, il faudra revenir.
Non, mais il y avait Tanguy, heureusement.
Ou pas. Désolé pour nos auditeurs trop peu déconstruits qui ont trouvé, je cite Julien Santini, qu'on parlait beaucoup trop de gonzesses pour une émission populaire. C'est sûr, avec Nagui, ce serait pas arrivé, ce genre d'écueil. Salut à toi, Nagui, on se retrouve demain à ton barbecue à thématique virilisme et art de vie. Désolé enfin pour tous ceux qui, comme Loulou de la Falaise, Zaza du Crazy Horse, Nana de la Place Clichy ou plus proche de nous, Juju Chifoumi, alias le Corse, n'ont pas été cités dans cette émission. Non, ce matin, il y en avait pour Gigi de Bourgogne, un peu pour Kiki de Montparnasse, l'autre Gigi, le clébard de Miss Carrelage, alias page 3, méfie-toi. Vivement les vacances, c'est quand les vacances ? Ah c'est maintenant.
Ben oui,
c'est maintenant
c'est
les
ça.
Vacances. Ouais, il était temps.
Eh oui, merci Daniel. Merci à tous autour de la table. Merci Katel Müller d'être venue dans la bande originale.
Merci d'être resté surtout parce que...
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. La semaine prochaine, le meilleur de la bande originale avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Constance Gay, Claire Borotra, Alex Lutz, Nicolas Maury, Chirine Boutella et Arthur Dupont. On vous souhaite une belle semaine, une belle journée sur Inter.